pour revenir sur l'entraînement ou l'entretien, on n'a pas forcément de retour sur ce qu'on a bien fait ou mal fait dans l'entretien. Souvent, maintenant j'essaie de demander ça, mais si je ne suis pas pris, est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail pour me dire s'il y a des choses que je peux améliorer pour mes futurs entretiens. Mais après, j'ai passé 15 mois sur entretien pour le même poste. Et voilà, ça va. À chaque fin d'entretien, je demandais, n'hésitez pas à me. Voilà. Finalement, ils m'ont juste répondu, désolé, voilà. Mais est-ce que vous pourriez préciser les raisons de votre refus? Et c'est, on a trouvé quelqu'un d'autre. Je m'en serais douté si on a pris moi. Je ne sais pas comment on va améliorer, travailler sur moi.
Un truc très simple, c'est de demander à ses amis en fait, de se mettre eux en position de recruteur et de RH, et tu verras qu'ils sont bien plus durs que les RH. Souvent, c'est ce que s'appelle des assessments, c'est-à-dire des simulations d'entretien. Surtout, prends des gens qui sont pas de ton milieu, enfin qui sont pas scientifiques, si c'est possible, si vous connaissez pas. Parce que du coup, tu vas être obligé de leur expliquer. Et si ils te regardent en disant mais il a rien compris, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque. Et tu leur demandes. Donc après, on verra la façon dont traditionnellement on déroule un entretien. Donc tu peux prendre cette trame là, par exemple, et ensuite leur demander du coup quel effet je te fais en fait. C'est quel effet je produis, qu'est-ce qui se passe quand est-ce que tu m'embaucherais en fait. Et la question finale, c'est est-ce que tu m'embaucherais. Voilà. Souvent ça marche bien, les amis. Alors évidemment pas du même secteur, je répète, pas du même secteur. Enfin, pas scientifique. Notamment si vous connaissez des gens en commerce, c'est. Quand vous êtes du commerce, c'est pas mal.
Et puis quand on arrive comme ça au quatrième. Quand on arrive comme ça au quatrième entretien pour un salaire en poste, c'est déjà super, déjà. Et à un moment donné, effectivement, bon, on n'a pas forcément d'explication. Oui, on a trouvé quelqu'un d'autre, ça évidemment en sensibilité, comme tu disais. Mais surtout, des fois, à la fin, des fois, il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est très difficile d'expliquer. Puis le mot de la fin, c'est pas la RH qui l'a, c'est le manager, c'est l'opérationnel. Donc, ils n'ont pas le temps, et puis ils ont trouvé quelqu'un. Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais des fois, c'est pas grand-chose. Hein. Tiens, bon, bah, ils ont les mêmes qualités, ils ont les mêmes diplômes. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai plus le feeling avec lui? Ou bah, c'est tout bête, il a vu de plus près. Voilà, des choses comme ça, quoi. Des fois, c'est bon, mais c'est pas des choses qu'ils vont dire, ça c'est sûr. Hein. Donc après, c'est vrai que de pas savoir, c'est frustrant. Mais déjà d'arriver au quatrième entretien, c'est que la candidature est intéressante, qu'on s'est bien débrouillé et qu'on arrive quand même au quatrième. C'est ça, c'est la chose positive qu'il faut en retirer. D'accord? Faut pas se démotiver parce que.
Et pour terminer sur ça, si tu as eu le cabinet de recrutement, appelez. Une partie du job des cabinets, je l'ai marqué après, c'est comment les relancer derrière. Et ça fait partie de leur job, surtout les cabinets de recrutement, ça fait partie de leur job. A priori, ils sont joignables. C'est-à-dire que ça fait partie de. Moi, par exemple, les gens qui me relancent, quand je fais. Je sais pas, depuis que je fais. Ça fait quoi, 5 ans que je suis dans ce cabinet, j'ai dû y avoir 5 personnes qui m'ont lancé. Et ça me dérange pas, enfin, je veux dire, ça fait partie du job, quoi. Donc, là, c'est même pas l'envoi email, c'est les appeler directement. À mon avis, c'est. Encore une fois, parce que, en gros, ça les fatigue d'écrire un mail. Donc appelez, ça va plus vite. D'autres questions? Yes. Alors, bon, on a déjà commencé à y répondre. Qu'est-ce que cherche un recruteur? Bon, donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, je vais répéter, c'était le profil. Donc, l'entretien téléphonique et physique. Je vais m'attarder un tout petit peu sur l'entretien téléphonique. Un entretien téléphonique qui se passe bien, dure moins de 30 minutes, hein. 20 minutes max. Ça doit aller très vite. Donc ça sert à rien d'exposer toutes vos expériences, toutes vos missions, tous vos trucs. En gros, il veut savoir si vous êtes disponible, si vous parlez les langues, l'informatique, en gros c'est souvent ça. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre thèse? Et si dans la thèse vous avez des expériences qui peuvent être assimilées à des expériences professionnelles? Et combien vous voulez gagner? et ça s'arrête là. Donc ça, ça va très vite. C'est un moyen de valider la cohérence entre ce que je vois sur le CV et ce que la personne me dit au téléphone. Essayez encore une fois d'être clair et direct. Si vous pouvez, demandez encore une fois en termes d'exercice de simulation à des amis. C'est vraiment, je trouve, un des meilleurs moyens. Après, vous verrez, hein, vous sentirez les choses. C'est vraiment que l'entretien, c'est que l'entraînement. Mais par contre, c'est pas l'entraînement. Sauf si vous avez d'autres moyens de trouver un boulot, mais si vous voulez passer par là, c'est que l'entraînement. Il n'y a rien de magique, quoi. Donc l'entretien physique. Donc on en a commencé à discuter. À part un tout petit nombre de cabinets, l'entretien est réussi si ça dure entre une heure et une heure et demie. Plus ça commence à devenir problématique, moins ça veut dire que vous n'avez pas intéressé. C'est une heure, c'est assez court. Donc je sais plus ce que j'ai fait après. Donc ce qu'on va j'ai mis trou dans son parcours, c'est-à-dire que ce qui peut vous arriver, c'est que on va rechercher la logique de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Il se peut qu'un certain nombre d'entre vous ait des trous, ce qu'on appelle des trous, donc où il y a des années où il n'y a rien passé. Vous avez redoublé votre première année, j'en sais rien, vous êtes parti pendant 6 mois, etc. Tout se justifie. Il n'y a rien si vous avez préparé le truc, il n'y a rien qui manque à l'appel. Si vous avez décidé de partir 6 mois faire le tour de la Thaïlande, c'est possible. Il faut juste bien présenter. J'ai voulu faire comme le film La Plage, et voilà, c'est-à-dire j'ai voulu découvrir une culture intéressante, tout ça. Quoi. C'est juste une façon de présenter. Ça va sur ça. Question par rapport soit au trou, ou à
des trous de chômage. Mes amis sont restés un an, deux ans au chômage. C'est pas classe de.
Bah, c'est sûr.
C'est pas classe. Et du coup, comment ça vient?
Bah, c'est quel. Alors, déjà, t'as la période. C'était à quel moment? C'était maintenant, là, récemment?
Ouais, c'était il y a deux ans.
Alors, le truc, c'est de montrer qu'on a été actif pendant sa période de chômage, qu'on n'a pas glandé chez soi, à rien faire, etc. Donc, tu lui expliquais que, effectivement, un, la situation économique du pays est difficile, donc c'est la crise, qu'ils ont passé un certain nombre d'entretiens avec machin, que ça s'est toujours pas fait pour des raisons budgétaires, je sais pas, ou qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre, mais qu'il faut que surtout, l'idée, c'est même quand, pour toi, même moralement, quand tu es au chômage, c'est de faire une activité à côté. Et de montrer qu'on a constitué cette activité. Ça peut être sportif, culturel, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de. Mais qu'on a toujours été actif. Qu'on est allé au Pôle emploi, qu'on a fait des entretiens. Enfin, parce qu'au Pôle emploi, vous pouvez vous faire aider. Pour tout ce qui est CV, c'est possible, j'ai dit. C'est pas facile, c'est possible. Non ?
Bah, moi, toutes mes amies qui me restent d'aide, elles sont allées au Pôle emploi, on va dire. C'est trop tard.
Alors, le Pôle emploi est un organisme. Ah oui, pardon. Le Pôle emploi est un organisme qui est sous-équipé, sous-formé, sous tout ce que vous voulez. Donc, effectivement, l'efficacité est de zéro. Il existe une alternative qui s'appelle l'APEC. Donc, si vous connaissez, ça va, l'APEC ? Ils font la même chose que le Pôle emploi, en mieux. Tu me diras, c'est pas difficile. D'accord. Comment ?
Vous enregistrez.
Bah oui, mais bon, c'est comme ça. J'allais dire, c'est factuellement factuel. Voilà, pour le coup. Y en a un à peu près plusieurs par ville, donc j'imagine qu'on voulait y en a un gros. L'idée, c'est que quand vous allez chez eux, ils font la même chose que n'importe quel cabinet de recrutement, de RH. Ils vous préparent votre CV, il y a des entretiens CV, il y a des entretiens réseau, il y a des entretiens recrutement. Et comment on prépare au recrutement. Et tout ça, c'est gratuit.
Vous parlez de l'APEC ou du Pôle emploi ?
Les deux, en fait. Mais c'est mieux d'aller à l'APEC, si c'est possible. Vous avez statut CAD normalement, vu votre thèse, donc... Eh bien, mon conseil, c'est d'aller chez eux. Par contre, le Pôle emploi, vous êtes obligé d'y aller, notamment pour des questions de chômage. Ouais, simplement de chômage. en sachant que désormais, le directeur du Pôle emploi a décrété qu'à part, le premier entretien, il allait vous voir 4 fois en 9 mois. Donc ça veut dire même pas une fois tous les mois. Donc en gros, effectivement, on n'attendait rien du Pôle emploi. Sauf si vous, effectivement, si des amis l'ont dit, le truc qu'on, réplique souvent, c'est « mais je veux participer » parce qu'en fait, ils ont des prestataires extérieurs dans lesquels tu peux faire tout ça, entretien, CV, etc., qui payent. Et donc, l'idée, c'est de leur demander de s'inscrire à ça, enfin, de les forcer à s'inscrire à ça. Et normalement, ton conseiller, le conseiller est censé le faire. Je ne sais pas, mais normalement. Voilà. D'autres questions sur le, du coup, pour l'emploi ou l'APEC? Encore une fois, l'inscription, d'abord s'inscrire au Pôle emploi, ensuite à l'APEC, c'est eux qui valident. Et donc, ils ont des locaux, hein, ces gens. C'est pas que sur Internet. C'est ça que, pardon, c'est ça que j'ai pas précisé. Ils ont essayé, et donc, il y en a en fonction de, votre résidence. Et en général, enfin, moi j'en connais un certain nombre qui sont de Made Paris, et ils sont assez compétents, hein, les gens sont en APEC. Ils sont au bon niveau. Autre question par rapport à l'APEC et au Pôle emploi? Alors, j'ai un doctorat et alors? L'idée, c'est comment je mets en avant mon doctorat. Donc, je sais pas comment ceux qui ont eu des entretiens, notamment toi, parce que on met en avant, mais tout se met en avant. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on attend notamment d'un scientifique, c'est rigueur, organisation, méthodologie, planification, comment?
Innovation.
Enfin, ça, c'est ce qui, donc c'est le truc de base. Hein. L'idée, c'est comment j'arrive à me rapprocher le plus possible de mon expérience de thèse à une expérience professionnelle. Plus vous vous rapprochez dans, cette logique-là, plus ça marchera. Vas-y. Ouais.
Ah. Ouais, c'est de valoriser le roman de stagiaire, ce genre de choses. J'ai cru sentir qu'un truc comme bébé, c'était que j'ai pas de notion de cadre d'entreprise, enfin, c'est-à-dire de... J'ai l'impression qu'ils pensent que si on est issu de la recherche publique, on est un peu... On part dans tous les sens et dans l'entreprise, il faudra se conformer à ce qu'on se dit et voilà. Donc du coup, j'ai un peu du mal à leur dire, mais non, c'est pas comme ça. Mais si, juste ça, c'est pas un super argument. Donc, qu'est-ce que je peux trouver dans ma thèse? Je pense que... Oui, je peux réviser, je peux trouver, voilà. Mais je sais suivre... Alors, pas les ordres, mais je sais rentrer dans un cadre. Sans forcément chercher à innover. Au début, j'insistais sur l'innovation, je suis super... C'est ça mon intérêt par rapport à des gens qu'on peut-être. Mais en même temps, il ne faut pas y aller trop fort, sinon on va avoir l'impression qu'on va vouloir venir et ouais, innover sur tout ce qu'on trouve. Et voilà. Du coup, voilà. Moi, je fais un truc un peu intermédiaire. Donc,
Oui, alors donc, l'histoire de l'innovation, c'est ne doit pas être ta base, mais ta valeur ajoutée. En gros, ça va être la cerise sur le gâteau. Le gâteau étant le reste que je sais rentrer dans les cadres, etc. Et notamment, ça passe, le gros défaut que vous pouvez avoir, j'avais fait ça pour des doctorants en histoire, c'est le vocabulaire. Si vous employez, le truc c'est que comme on n'emploie pas les bons mots, alors que ça veut dire la même chose, la forme est plus importante que le fond. Vous voulez dire la même chose, mais enfin, moi ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était qu'ils n'utilisaient pas le mot compétence, enfin les docteurs en histoire, ils n'utilisaient pas le mot compétence. Ils utilisaient le mot aptitude. Ce qui est potentiellement la même chose. Je crois que c'était ça, je crois que c'était le mot aptitude. Le truc c'est que même moi j'ai mis 5 minutes à comprendre de quoi ils parlaient. Donc si tu utilises le mot compétence, si tu veux, tu rentres dans le cadre. Après, c'est de dire effectivement si un chef de projet, je me conforme au projet, mais si vous ne savez pas ce que c'est qu'un feedback, un rétro-planning, un machin, ça risque d'être compliqué. C'est ça, donc, c'est ces mots-là donc, qu'ils veulent que vous nous disiez, en fait, qu'ils veulent se conformer.
D'accord.
Dès une définition de feedback.
Feedback,
de faire du feedback, faire un retour, oui, de toujours donner des, voilà, par rapport à ce qu'on nous a confié, de faire régulièrement des rapports, mais pas écrits, hein, oraux, en disant voilà, j'en suis là, voilà. Parce que le manager, le recruteur, il aime toujours savoir où ses équipes en sont, et voilà, si, faire du feedback aussi, c'est savoir où vous en êtes dans le projet, mais aussi si vous rencontrez des difficultés. Si vous en rencontrez, qu'ils sachent que vous en rencontrez et que vous n'êtes pas là en disant j'ai des difficultés, mais j'ose pas aller vers. Voilà. Non, il attend aussi que, voilà. Il a besoin aussi de se sentir utile. Il dit voilà, je suis un peu coincé, qu'est-ce que vous pouvez m'aider. Donc, ça, toujours de faire du feedback, savoir positif et du questionnement. Voilà, là, je suis un peu coincée, j'ai envisagé ça. Venir quand même toujours avec une petite solution, enfin, une petite approche de ce que vous pourriez faire, mais en demandant son avis. Toujours un retour pour qu'il soit informé en ligne, on va dire. Pas tous les jours, dans le détail et tout ça, mais globalement, qu'ils soient informés. Ça, c'est du feedback. Dans l'industrie, en tout cas, ce qu'on connaît, nous, bien. C'est vrai que...
Alors juste le feedback, le mot en anglais, ça veut dire nourrir en retour. Hein. Donc c'est vraiment ça. Et je sais faire des comptes rendus, on ne dit pas compte rendu, on dit reporting. Hein. Genre voilà. Non mais c'est le genre de choses, c'est-à-dire que quand tu effaces un truc, tu mets du compte rendu, de temps en temps, t'es là. Et bon, en France, dans les années 80, on disait reporting. Enfin, compte rendu, voilà. Il y a une question d'être à la mode, hein. Je suis d'accord. Encore une fois.
Dans le
vocabulaire. C'est pour ça qu'on dit que, notamment dans le vocabulaire, j'insiste dessus, la forme est plus importante que le fond. Si vous voulez que votre message passe, il faut adopter la forme du moment. C'est pour ça que si vous avez des amis, des connaissances qui ne travaillent pas dans qui sont déjà dans l'entreprise, allez vraiment les prendre pour justement que ça colle. C'est là que tu fais la différence, parce que sinon ton message ne passe pas. Donc pour revenir, c'était toi, donc innovation au top et le reste du vocabulaire intégré dedans. Je laisse la parole à la spécialiste du rétro-planning.
Le rétro-planning...
En mode projet en fait, c'est ce qui s'appelle travailler en mode projet.
Ouais. C'est de savoir comment va se dérouler l'opération, le projet, voilà. Nous aussi, en formation, on le fait. Hein. Par exemple, on sait qu'on a fait un calendrier. Je vais prendre un exemple concret, vous allez me dire si ça vous parle. En formation, on a des plannings inter-entreprises qu'on fixe à l'avance pour l'année 2013, par exemple. Donc, on a un rétro-planning. On sait qu'on a fixé telle formation à telle date. On sait, le rétro-planning, c'est ça. C'est tant de semaines à l'avance, j'envoie un mailing à mes clients pour leur rappeler que j'ai cette formation. En amont, on a réservé notre consultant qui va intervenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait en amont ? On a réservé une salle de formation. C'est tout ça. C'est toute cette logistique, cette organisation de votre planning pour être sûr qu'au moment, au jour J, au moment T, enfin, comme on veut, on est au top.
Et moi, j'appelle ça un planning.
Ouais.
Pour trouver l'info, mais c'est juste une personne pour ça en fait, qui ça va intéresser le vocabulaire. Vous avez un certain nombre de sites qui vous font des descriptions de postes. Donc quand vous postulez à une annonce et que vous êtes reçu, allez voir la description. L'APEC le fait très bien. Je reviens sur l'APEC. Après, il y en a un qui est plus dans l'industrie qui s'appelle Cadre Online qui le fait aussi. Vous avez les descriptifs de poste. Donc allez vous trouver le bon mot, les bons vocabulaires. Bon, qualité défaut, ça va ?
Ce sont des questions que vous avez certainement régulièrement ?
Non, en fait, ils ne m'ont pas posé. Mais...
En fait, ils les cherchent. Mais parce que du coup, il y a d'autres moyens de demander.
On m'a dit, s'ils sont intelligents, ils posent pas la question. Ouais. Parce que,
au classique.
Ouais,
classique.
Ouais, tout le monde a préparé ça.
Ouais, donc, mais en fait, il y a d'autres façons. Il y a d'autres moyens de poser la question. Juste pour rappel, un défaut est une qualité exagérée. Ou quelque chose que je suis capable de changer. Je suis trop perfectionniste. Voilà. Mais je peux me changer. Mais ça fait pas. L'entretien de recrutement est un peu comme du théâtre. Hein. On monte son meilleur profil, on parle le mieux, etc. On attend quand même d'être validé par un certain nombre de choses. Les silences. Est-ce que vous avez déjà eu des silences ? Ça peut être très déstabilisant.
Le téléphone ? Non. Je pense que c'est parce que la personne est en train de noter.
Ouais.
On voit pas. Et du coup, On a répondu à la question, puis on a un grand blanc. Du coup, on dit de meubler avec un truc et ça.
Alors, ne pas meubler. Les silences sont acceptés et acceptables. Tu attends juste que l'autre te relance. Si tu penses avoir fini ta réponse et que c'est clair dans l'intention de phrase, tu peux, ou, moi je le fais de temps en temps pour voir si la personne elle relance ou pas. Mais si elle relance et qu'elle me dit quelque chose qui est inutile, il vaut mieux qu'elle dise rien. Voilà, donc les silences attendaient qu'on vous relance.
Le RH comme ça me coupait.
Ah, t'as l'autre version.
J'ai l'impression que j'attendais pas la fin de la phrase, que manifestement il a eu ta réponse.
Ouais. Dans ces cas-là, c'est à toi d'adapter. Donc, faites des. Enfin, j'allais dire, vos réponses plutôt courtes. Soyez concis. Encore une fois, en entretien face au chargé de recherche, au chargé de recrutement ou RH, il cherche pas à valider, il cherche à valider un certain nombre de choses. Donc, soyez, il va chercher au plus vite, quoi. Donc, plus vous le donnez vite, mieux ça se passera bien. Plus ça se passera bien, pardon. Allez. Comme ça, sinon, on vous posera des questions. Alors, le déroulé d'un entretien classique. J'ai mis versus entretien réseau qui est un peu différent, je vais en parler juste après. Vous êtes face à. Allez, au chargé de. Au consultant RH. Donc, vous avez déjà eu l'entretien téléphonique, la validation de votre entretien. Pardon, de l'entretien. Désolé. Entretien téléphonique. Donc, souvent, il commence par la présentation de la structure. Je dis structure parce que ça peut être asso, boîte, enfin, tout ce que vous voulez. Ça peut être. Voilà. Donc, pendant ce moment-là, il est assez bon, évidemment, d'avoir repéré avec qui on parlait. Et notamment, la position de la personne qui est en face de vous et quel est son rôle dans l'entreprise. Donc, on a la structure. Quand tu notes, comme tout à l'heure tu disais, c'est plutôt bon, si tu veux. C'est-à-dire que ça intéresse. L'idée, c'est aussi, si vous avez des questions, c'est à ce moment-là qu'il faut les dire. Sur la structure, on reste focalisé sur la structure. Pas sur le poste proposé. Notamment, si tu veux entrer dans le cadre des boîtes, ils vont parler du nombre de personnes, en gros du chiffre d'affaires, et ils vont parler des valeurs de l'entreprise. On va pas attendre trop longtemps sur ce que des valeurs, mais en gros, ils vont vous dire voilà la façon dont vous fonctionnez et la façon dont on veut que les choses, comment on travaille ensemble, en gros. Et là où vous pouvez être très factuel sur les questions, c'est justement sur les valeurs. En disant que ça vous correspond ou pas. Enfin, en gros, il vaut mieux coller aux valeurs, quoi. Ensuite, donc il fait la présentation de sa structure, est-ce que vous avez des questions, oui, non, machin. Ensuite, il va vous évaluer et il va vous évaluer ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la façon dont vous êtes entré dans la pièce, vous avez dit bonjour et vous êtes assis. Ça, le truc, c'est qu'il ne le fait pas de manière consciente la plupart du temps. C'est ça qui est difficile. Il va regarder la façon dont vous êtes habillé, votre présentation, si vous avez votre CV. Alors, on a mis même pour la génération Y. Est-ce que c'est clair la génération Y ? Bon, bah, c'est bon. Bon, y a un thème qui est émergent dans les entreprises depuis quelques années, ce qui s'appelle la génération Y. C'est tous les gens qui sont nés à partir du début des années 80 jusqu'aux années 90, qui ont des modes de comportement légèrement différents de leurs aînés. Et vous êtes identifié comme la génération Y. Voilà. Sur la génération Y.
Un petit peu, parce que j'ai pas d'interrogation.
La génération Y.
En deux mots, ça fera peut-être une petite présentation aussi.
Ah, bon, en gros, ce sont les gens qui sont nés à partir du début des années 80, jusqu'au milieu des années 90. Et donc, comme je disais, des comportements un peu différents, et notamment, c'est tous les gens qui sont nés avec l'informatique et Internet. Donc, ils sont connectés en permanence et qui, du coup, quand ils arrivent à l'entreprise, ont quelques comportements un peu différents de ce que faisaient les générations dessus, à savoir la génération X et les baby boomers. Et il y a des conflits générationnels en ce moment dans les boîtes de management.
Comme quoi ?
Comme je vais être à ta place d'ici 5 ans. Voilà.
Ils n'ont pas la même façon de communiquer. Par exemple, les gens. Qui recrutent, qui sont de la génération précédente, n'ont pas le même comportement relationnel, ils n'ont pas la même facilité, ils ne sont pas connectés de la même façon au monde que vous, génération Y. Donc c'est ça qui peut des fois un petit peu être conflictuel.
Oui, par exemple, si tu veux, j'ai fait une présentation, notamment sur la génération Y, dans une, face à des pharmaciens, qui me racontaient que donc c'était un des associés de la pharmacie. Ils ont voulu recruter quelqu'un de la génération Y, et la personne est arrivée en disant « Bon, je suis aussi compétent que vous, même si j'ai 25 ans de moins, et je veux votre poste. » C'est un peu caricatural, je suis d'accord. En gros, c'est, il y a un certain type de comportement, et notamment de ce que j'appelle aller au plus pressé. Et dépêche-toi. On a tendance à être très vite maintenant. Voilà. Et notamment, le mode d'assimilation de la connaissance est différent des générations précédentes, parce qu'il y a un terme de tout plus facile. On est connecté, donc on a plusieurs moyens d'information. Alors avant, c'était plutôt traditionnel, le professeur, etc. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais c'est, en tout cas, c'est un des sujets dans les entreprises. Et juste, sachez que vous êtes identifié à la génération Y. Et donc, ils peuvent être un peu réticents sur ça.
C'est pour ça qu'on insiste sur la tenue vestimentaire. Bon, elle n'est pas en converse, c'est un jean troué. Réservez ça pour plus tard. Petit pantalon de toile ou quelque chose d'un peu plus classique, un peu plus sobre. Ça a tout de suite son importance malgré tout. Il faut rester réel. Voilà. C'est mieux que de venir avec un catogan, un casque sur la tête. Ça ne pourrait pas empêcher les a priori de vos recruteurs, d'accord? Et même s'ils font partie de la même génération que vous. Donc, détrompez-vous, c'est pas parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui a le même âge qui va accepter que vous veniez en jean moitié déchiré et avec des bonnets sur la tête, d'accord? C'est juste, je pense...
Enfin, c'est un petit rappel, hein, mais c'est... le truc, c'est que ça, moi, ça m'est arrivé, hein, des gens qui... Comment dire? Parce qu'après, si t'es chargé de recherche ou chargé de recrutement, tu peux pas présenter la personne à ton client. Tu sais qu'il fera mauvais effet. Même si, encore une fois, même si le fond est bon, la forme est pas suffisante. Donc, effectivement, pour les hommes, c'est plutôt pantalon, chemise, enfin, rien. On demande pas non plus la lune, hein.
On demande pas le costume trois pièces, hein.
Et la cravate n'est pas obligatoire pour les entretiens.
Plus.
C'est fini ça. Mais bon, un minimum. Et pour les femmes, voilà, très bien comme ça.
Classique.
Les boîtes sont classiques, hein. Elles ont des esprits classiques, donc respectez le classique.
Alors c'est vrai que bon, vous avez votre personnalité, il ne faut pas la masquer non plus, mais par exemple, des entretiens ou des jeunes filles, on parle de la jeune femme ou de la jeune fille qui viennent avec des piercings ou maquillées outrageusement. Ça bloque aussi un peu. Il ne faut pas se le cacher, il faut juste en avoir conscience. Après, vous assumez ou vous ne vous assumez pas, hein, d'enlever vos personnes, de ne pas vous maquiller, trans, tout ça. Ça, ce n'est pas le problème. C'est juste qu'il faut avoir conscience que ça peut être bloquant. Voilà, c'est tout. D'accord ?